Être ici avec vous tous.
Mais je regrette, je ne parle français pas du tout, parce que je n'ai pas appris français dans l'école. Mais je lis la Bible en français chaque jour pour apprendre le français. Est-ce que vous tous faites la même chose? Suffice de français. One good thing about being in Quebec.
Une bonne chose d'être au Québec. Ah oui. Sure. Une bonne chose dans le fait d'être venu au Québec pour moi, c'est que je n'ai pas besoin de raconter de blagues. Je peux faire rire les gens simplement en essayant de parler français. On a suggéré que nous parlions de la prophétie ce soir et commençons avec un verset qui devrait nous être familier à tous et que vous le connaissez certainement tous par cœur. 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur et soyez prêts à répondre en tout temps à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Avec douceur. Nous allons essayer de faire ça, mais je ne sais pas si ça va marcher. Je n'ai jamais travaillé de cette façon-là jusqu'à maintenant. D'habitude, le traducteur est à côté de moi. En tout cas, on verra. Si vous soulignez dans votre Bible, il y a des mots que vous soulignerez certainement. Soyez prêts en tout temps. À rendre compte à quiconque vous demande raison. Raison, vous demande raison. Ça ne dit pas ceux qui vous demandent les expériences que vous avez eues, ou les visions que vous avez eues, ou les rêves que vous avez faits, mais une raison. C'est merveilleux de donner son témoignage. On devrait tous avoir un témoignage à donner. Ceux d'entre nous qui connaissons Christ, nous devrions être capables de dire ce que nous croyons avant, comment la vie était pour nous dans le temps, comment nous sommes venus à connaître Christ et la transformation que cela a fait dans notre vie. Mais ça ne va pas nécessairement convaincre tout le monde. Nous devons avoir une raison. Quelle est votre raison? Si un athéiste vous demandait « Pourquoi crois-tu en Dieu? Pourquoi crois-tu que Jésus est le Sauveur? » Oublie ça, comment tu as rencontré Christ. Ça ne me convaincra peut-être pas. Mais pouvez-vous donner une raison? C'est ce que la Bible dit. Soyez prêts en tout temps à donner une raison. Nous avons bien sûr des raisons qui nous sont données dans la parole de Dieu. Nous avons l'évidence de la création. Mais cela ne convainc pas tout le monde. Je veux que vous compreniez que c'est difficile pour Dieu de se révéler à nous. Il y en a qui disent, « Oh, si je pouvais entendre une voix qui vient du ciel, alors je croirais. » Si Dieu simplement parlait du ciel. Mais supposons que tout d'un coup nous entendions une voix. « Je suis Dieu, adorez-moi. » Comment sauriez-vous que c'est vraiment Dieu qui parle? Il y a un savant sceptique qui est assis là, puis il dit, « Oh, c'était simplement le tonnerre au-dessus de Jonquière. » Et puis il y avait un avion en réaction qui a franchi le mur du son. Et il y avait un avion commercial qui partait pour Francfort, et alors, par une chance, dans un million, les sons se sont mélangés et ça a produit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Comment pourriez-vous lui prouver qu'il a tort? Supposons qu'un homme vienne sur cette terre et qu'il dise « Je suis Dieu ». Est-ce que vous le croiriez? Et pourquoi le croiriez-vous? Supposons même qu'il fasse des miracles. Même qu'il ressuscite les morts. Comment sauriez-vous que c'est un miracle? Voyez-vous, j'essaie de vous faire réfléchir. Soyez toujours prêts à donner raison, une raison. Supposons que j'arrive ici avec un petit avion sur la plage, sur une île du Pacifique Sud, où ils n'ont jamais vu personne du monde civilisé. Et ils s'inclinent bien bas devant moi, ils me prennent pour un dieu descendu du ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en Nouvelle-Guinée, aujourd'hui, ils ont un culte qu'on appelle le cargo cult, le culte des avions de marchandises. Durant la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai été dans le Pacifique Sud durant la Deuxième Guerre mondiale, certains des avions... Non, il n'y avait pas de jet de ce temps-là. Non. Certains des avions avaient sur le côté des réservoirs au bout des ailes. Et alors, lorsqu'ils arrivaient là où ils devaient combattre, ils laissaient tomber ces réservoirs. Et les réservoirs tombaient dans la jungle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film « Les dieux sont tombés sur la tête », le gars qui jette la bouteille de Coca-Cola en haut de la falaise. Eh bien, c'est ça qui est arrivé. Eux, ils ont pensé que c'était les dieux qui avaient jeté ces réservoirs sur la terre. Et les gens de Nouvelle-Guinée, là, ont construit des petits modèles d'avions qu'ils ont mis dans les clairières et ils attendent que d'autres choses leur tombent du ciel. C'est une nouvelle religion et ils attendent encore. Alors j'arrive là, moi j'atterris avec mon petit avion et puis ils me prennent pour un dieu descendu du ciel. J'ai un fusil et je peux tirer et tuer des choses à distance et ils s'inclinent encore plus bas, ils m'adorent. Nous sommes assis autour d'un feu de camp le soir, je sors de la poudre de ma poche, je la jette dans le feu, puis ils se sauvent tous. Ils pensent que c'est un miracle, mais ça n'en est pas un, c'est scientifique. Comment pourriez-vous, même si quelqu'un ressuscitait un mort, comment pourriez-vous prouver que c'est un miracle? Oui, j'essaie de vous faire réfléchir. Ce n'est pas facile à Dieu de se révéler à nous. Pas parce que nous sommes tellement brillants, mais parce que nous sommes tellement idiots. Nous avons des cerveaux gros comme des arachides, nous n'avons rien et Dieu, lui, est infini. Nous ne savons pas. Il y a 50 ans, il ne connaissait pas la science que nous avons aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous savons de la science qu'il y aura dans 50 ans si le Seigneur n'est pas revenu? Comment est-ce que Dieu peut prouver qui il est? Le plus vieux de nos garçons est un professeur de philosophie. J'aime souvent avoir une discussion philosophique avec lui, mais la philosophie, ce n'est pas ça qui va convaincre. Il est chrétien. On a besoin de philosophes, de professeurs de philosophie qui sont chrétiens. Mais il nous faut autre chose que ça. Tournons dans 2 Pierre, chapitre 1er. Et Pierre dit au verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Vous savez que certaines personnes disent que le Nouveau Testament a été écrit plusieurs siècles après les apôtres. Pas par des témoins oculaires, mais par des moines à une place ou l'autre qui ont inventé ces histoires-là. On a aux États-Unis aujourd'hui un groupe d'érudits, comme ils se disent être, et qui tiennent ce qu'ils appellent le Jesus Seminar, le séminaire sur Jésus. Et j'ai eu un débat avec le leader de ce séminaire à la radio, et ils essayent de raconter des histoires comme ça. Une des choses que j'ai dit à Dr. Funk, c'est « Je regrette, mais vous êtes né 1900 ans trop tard pour nous dire ce qui s'est passé de ce temps-là. » nous avons le témoignage de témoins oculaires. Gardez le doigt dans 2 Pierre et tournez dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Il dit qu'il espère qu'on a la même traduction, évidemment pas, mais... Oui, oui. La 15e année du règne de Tibère. OK. Les 2 premiers versets. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Liturée et du territoire de la Traconite, Lysania, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Vous dites pourquoi lire ça? Ce ne sont que des noms et des endroits. Ça semble un peu comme « et il enfanta » dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça prouve? Mais ce sont des termes très techniques que nous avons là. Gouverneur, tétrarque, des dates, la 15e année de Tibère César, des endroits. Pouvez-vous vous rappeler qui était le pasteur de telle église dans tel petit village il y a 10 ans, qui était le gouverneur de telle province, qui était le maire de telle ville? Vous ne pouvez pas. Cela n'aurait pas pu être écrit 50 ans après ou 100 ans après. Cela a été écrit par des gens qui étaient témoins, qui ont été témoins des événements. On disait... Vous vous rappelez, on disait que Pilate n'avait jamais existé parce qu'on ne pouvait trouver aucune preuve de son existence. La raison qu'on ne pouvait pas trouver de preuve de son existence, c'est que Pilate avait offensé César et César a ordonné d'effacer. Si vous allez à Israël aujourd'hui, que vous allez à Israël, et vous verrez là une pierre, à peu près grande comme ça, et sur la pierre, il y a une inscription concernant César. Comment est-ce que cela a survécu? Bien, il détruisait tout. Et il y avait là une pierre qui était parfaite pour faire un siège, pour s'asseoir dessus. Alors, ils en ont fait un siège pour s'asseoir dessus, et l'inscription était par en dessous. Et quand le théâtre a été démoli et qu'on a renversé la pierre, on a trouvé là un texte qui parlait de Pilate. Bien sûr, Joseph parle aussi de Pilate. Ce livre a été écrit par des témoins oculaires. Pierre dit, « J'ai vu sa gloire de mes yeux. » Si nous retournons dans 2 Pierre, il dit au verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alors Pierre dit, voilà, nous avons une expérience formidable, je l'ai entendu avec mes propres oreilles, nous avons vu Jésus transformé, nous avons vu Moïse et Élie, et il parlait avec lui, et nous avons entendu la voix, nous avons une expérience magnifique. Est-ce qu'il dit, alors ben, vous n'en aurez pas une, donc vous devez me croire? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Que dit le prochain verset? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Qu'est-ce que cela veut dire? Que certaines paroles de prophétie sont certaines et d'autres pas? Non. Cela veut dire que la prophétie est la grande preuve. Et j'espère que je pourrai vous aider à avoir une nouvelle vision de la prophétie dans le peu de temps que nous avons. Retournons, si vous le voulez bien, dans Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46. Il dit, j'ai des marques dans ma Bible, mais parce que c'est à pic, je les perds toutes, tant mieux, parce que moi, j'en ai pas. Verset 9 et 10, Ésaïe 46. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Oups, sorry. Versets 9 et 10. Qu'est-ce que Dieu dit là? Il dit, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est facile à dire. Comment peut-on le prouver? Il dit, je vous dirai ce qui va se produire avant que cela arrive. De telle façon que lorsque cela arrive, vous saurez que je suis Dieu. Il y a 30% de prophétie dans la Bible. Et pourtant, c'est un sujet qui est négligé. Il y a bien des gens qui disent, oh, comment est-ce qu'on peut parler de prophétie? Personne ne sait pas grand-chose là-dessus. Il y a tellement de bibites dans Daniel et dans l'Apocalypse. Ce sont des symboles. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? C'est compliqué. Attendez dans une minute. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'Apocalypse ou dans Daniel pour parler de prophétie. La plupart des prophéties ont déjà été accomplies. Et comprenez bien que la prophétie est unique à ce livre, la Bible. Est-ce que vous savez ça? Vous ne trouverez pas de prophétie dans le Coran. Vous ne trouverez pas de prophétie dans le livre d'Agita ou dans le Ramayana, le Mahabharata, tous ces livres hindous, dans les écrits de Mrs. Baker Eddy ou dans les paroles de Confucius ou de Bouddha ou de Mahomet. Vous ne trouvez de prophétie nulle part que dans ce livre. Cela doit vouloir dire quelque chose. Il y a deux sujets. Ben, il y a bien des prophéties, mais toutes les prophéties reviennent en fait à deux sujets principaux. Un, c'est Israël, et deux, le Messie qui vient à Israël et qui, par Israël, vient dans le monde. Et nous voulons parler du premier ce soir, et demain continuer avec un autre sujet. Allons dans Ésaïe 43. Tant mieux. Il perd tous ses morceaux. Ésaïe 43, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Verset 10, verset 10 et 11, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Dieu dit à Israël, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins envers vous-même et envers le monde que je suis Dieu. Un bon verset pour les témoins de Jéhovah, c'est le verset 11. Là. C'est moi qui suis l'Éternel, hors de moi, il n'y a point de sauveur. Tout au travers de l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis le sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Alors si Jésus est le sauveur, il doit être Dieu. C'est aussi simple que ça. Seul Dieu peut sauver. Mais Dieu dit aux Juifs, vous êtes mes témoins envers vous-même et envers le monde que je suis Dieu. Mais comment les Juifs sont-ils ses témoins? Bien, parce qu'il y aura 144 000 Juifs qui vont prêcher durant la Grande Tribulation. Non, c'est pas de ça que je parle. Allez à Israël aujourd'hui et 30% d'entre eux prétendent être athées. Ce n'est pas parce qu'il y a des Juifs croyants dans le monde pour témoigner de ce que Dieu existe. C'est à cause de ce que Dieu a dit devait arriver à ce peuple et qui s'est réalisé. Et ça, c'est le grand témoignage que Dieu a donné au monde, qu'il est Dieu, qu'il existe, et personne ne peut le nier. Je parle souvent dans des universités aux États-Unis. Et j'aime dire à mon auditoire, peu importe les diplômes qu'ils ont, peu importe qui est dans la salle, je leur dis, je vous prouverai que Dieu existe, que la Bible est la parole de Dieu, et que Jésus-Christ est le seul véritable sauveur des pécheurs. Et je défie qui que ce soit de le réfuter. Vous ne pouvez pas le réfuter. Nous n'avons pas le temps d'aller dans beaucoup de détails, et je vous dis des choses que vous savez déjà. Mais considérons certaines des choses que Dieu a dites concernant Israël. D'abord, il leur a promis un pays. Cela sépare Israël de tous les autres peuples du monde. Dans l'histoire, jamais Dieu n'a promis un territoire à quelqu'un. Mais il leur a promis un pays. Vous connaissez les promesses aussi bien que moi. On pourrait regarder dans Genèse chapitre 12, par exemple. Genèse chapitre 12, si vous voulez tourner, lorsque Dieu appelle Abraham à Ur en Chaldée. Et les trois premiers versets du chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est une des promesses concernant le Messie. Toutes les familles de la terre seront bénies. Pourquoi? À cause du Messie qui vient par Israël au monde. Au chapitre 13, verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Chapitre 15, verset 7. L'Éternel dit encore, je t'ai fait sortir d'Ur pour te donner en possession ce pays, à partir du verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Nous avons l'esquisse, entre parenthèses, de ce pays-là. Depuis le fleuve d'Égypte, ça, ce n'est pas le Nil, c'est une rivière dans le Sinaï, jusqu'à l'Euphrate. Et cela inclut Damas, cela inclut Beyrouth, cela inclut une bonne partie de la Jordanie. Alors Israël n'a même pas encore une partie de tout le territoire qu'il devrait avoir. Chapitre 26, et vous avez l'alliance qui est renouvelée avec Isaac. Au verset 3, « Séjourne dans ce pays et je serai avec toi », etc. Et il lui promet le pays. Au chapitre 28, Jacob a son rêve avec l'échelle qui va au ciel. Et la dernière partie du verset 13, « Je suis l'Éternel Dieu d'Abraham, la terre sur laquelle tu t'es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Vous connaissez ces versets, nous pourrions en regarder bien d'autres. Le peuple d'Israël est à part de tous les peuples de la terre. Tournez maintenant dans Lévitique chapitre 20. Lévitique, chapitre 20. Et au verset 22, verset 24, je vous donnerai le pays en possession. Verset 26, vous serez saints pour moi car je suis saint, car je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Et il y a bien d'autres versets encore. Il s'agit là du peuple élu de Dieu. Il lui a promis un pays, et lorsqu'il les a amenés dans le pays, là on va dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, et Dieu dit, « Si vous désobéissez à ma voix, je vous rejetterai de ce pays. » Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais là, maintenant, ça devient très spécifique et très remarquable. À la fin du verset 63, « Vous serez arrachés du pays », verset 64, il est dit, L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Est-ce que cela s'est produit? Nous parlons du juif errant. Vous trouvez les juifs partout. J'aime la façon dont un de mes amis juifs qui est venu à croire au Seigneur met les choses. Il est de Brooklyn et il croit que Jésus est le Messie et le Sauveur et il dit, pourquoi est-ce que je parle avec l'accent de Brooklyn et que j'aime les bagels? Parce que mes ancêtres ont péché et que Dieu nous a éparpillés sur la terre. Et ça devient plus remarquable. Retournez maintenant au verset 37. Et Dieu dit, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Je pourrais vous donner bien d'autres versets. Tu seras haï, tu seras persécuté, tu seras mis à mort. C'est l'antisémitisme au plus fort. C'est unique aux Juifs. Il y a des minorités dans le monde entier qui pensent qu'on les a maltraités, mais aucune n'a été autant maltraitée que les Juifs. Il n'est même pas nécessaire de parler de l'Holocauste. J'étais récemment avec mon épouse à Varsovie et nous avons vu le ghetto. L'antisémitisme s'élève de nouveau dans le monde. Nous venons de visiter Auschwitz. Vous rendez-vous compte que certains des Juifs, ces gens maigres et torturés, qui ont été relâchés d'Auschwitz une poignée, sont retournés dans leur propre ville, à Kalso par exemple, pour retrouver leur maison desquelles la Gestapo les avait arrachées et les Polonais les ont tués. Vous comprenez ça? C'est incroyable. Vous ne lisez peut-être pas ça dans les journaux. On a mis des grandes lettres sur l'opéra de Varsovie, là où il y avait le ghetto. Les Juifs dans les fours. Quel est l'homme là en Russie maintenant? Celui qui dirige en Russie. Et elle dit, je devrais peut-être en tuer 100 000. Il dit qu'il va anéantir les Juifs et il a 25% des votes. L'antisémitisme s'élève partout à nouveau. Et c'est unique aux Juifs. Et Dieu a dit que cela arriverait. Vous croyez que si j'étais un père juif et que j'avais des filles, je voudrais qu'elles marient des non-juifs pour changer leur nom, pour changer leur identité? Vous savez ce que Topol dit dans le violoneux sur le toit, si on a le peuple choisi, choisis donc un peu quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que c'est juste nous qui devons avoir la persécution? Ce sont les papes qui les premiers ont mis les juifs dans des ghettos et qui leur ont fait porter des insignes. Hitler a dit, je fais ce que l'Église fait depuis 1500 ans, mais moi je vais réussir mon travail. Martin Luther a écrit un pamphlet contre les juifs et leurs mensonges. Et il a dit, donnez à un juif le choix de se convertir ou alors on lui arrachera la langue, on détruira ses synagogues et on brûlera sa maison. Ce n'est pas seulement l'Église catholique. Lorsque les premiers croisés ont pris Jérusalem, organisée par le pape Urbain II, la première chose qu'ils ont fait en arrivant à Jérusalem, c'était de rassembler les Juifs dans la synagogue et d'y mettre le feu. Ça, c'est l'antisémitisme. On ne peut pas expliquer l'antisémitisme. Il y a une dimension démoniaque. Pourquoi ce peuple-là est-il si haï? Parce que le Messie vient au travers des Juifs. Et si Satan pouvait détruire les Juifs, il n'y aurait pas de Messie. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer le Messie. Et même après que Christ a défait Satan à la croix, qu'il a payé le châtiment de nos péchés, si Hitler avait pu anéantir les Juifs, Satan aurait au moins un match nul avec Dieu. Car Dieu n'aurait pas accompli ses promesses. La plupart des promesses de l'Ancien Testament concernent les Juifs dans leur pays, dans les derniers jours, et le Messie qui revient pour régner chez eux. Et il ne peut pas venir régner chez eux s'il n'y a plus de Juifs qui restent. Alors pourquoi l'antisémitisme? Vous ne pouvez pas l'expliquer autrement. Dieu dit, malgré tout cela, malgré qu'on essaye de vous massacrer, malgré que vous essayez de vous cacher, je ne vous laisserai pas être détruits. Vous resterez un peuple, un groupe ethnique reconnaissable. Parlez aux Juifs. J'étais assis à côté d'une femme dans l'avion. Elle s'est mariée dans une famille juive. Ce sont des non-croyants, ils ne croient pas à Dieu, ils ne croient à rien. Mais ils ont une identité familiale. Et c'est très difficile pour elles d'arriver à pénétrer dans la famille juive et à la tradition. Vous savez, dans le violonneux sur le toit, la tradition. Pourquoi est-ce que la tradition peut être si forte? Elle est plus forte que la foi de bien des gens qui disent croire en Dieu. Tournons maintenant dans Jérémie, chapitre 31. Jérémie 31, verset 35. OK, versets 35 et 36 de Jérémie 31. « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Est-ce que le soleil brille aujourd'hui? Est-ce que la lune est là ce soir? Est-ce qu'il y a des étoiles dans le ciel? Est-ce que la marée marche encore dans l'océan? Israël n'a pas cessé d'être une nation. Quelle est l'importance d'Israël? Si Israël cesse d'être une nation, il n'y aura plus de soleil dans le ciel ni de lune. Dieu dit, Israël ne cessera pas d'être une nation. Et un des grands mensonges dans l'Église d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais ça l'est aux États-Unis et ailleurs, c'est que c'est l'Église qui est Israël. C'est que Dieu en a fini avec Israël, que c'est l'Église qui est Israël. Et c'est par accident qu'il y a encore des Juifs qui ont survécu. Ils ne méritent pas d'être là, ces athées, ces gens qui ont rejeté Christ, ces Juifs ne méritent pas d'être en Israël. Non, ils ne méritent pas d'être en Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Dieu, Jésus a dit... Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça son nom pour toujours. Et il a fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob, et il accomplira sa promesse. Je disais à Don, nous avions des réunions dans notre maison. Nous avions une grande maison lorsque j'étais dans les affaires. Nous avions plus de place, plus de réunions qu'il y en avait dans les églises, et nous avions des réunions pour des Juifs. Il y avait des Israéliens, nous avons eu des pilotes, des conducteurs de chars d'assaut qui venaient à nos réunions, et je n'oublierai jamais certains de ces Israéliens qui avaient combattu la guerre des six jours. Ils disaient, j'étais un athée avant la guerre des six jours, mais durant la guerre des six jours, j'ai vu des choses se produire que je ne peux pas expliquer autrement, excepté que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob accomplit ses promesses à son peuple. Ce sont des miracles, on ne peut pas les expliquer autrement. Un exemple. Une compagnie de soldats israéliens sont prêts à attaquer une position arabe. Et alors qu'ils essayent de reprendre la partie est de Jérusalem, ils vont attaquer. Et il y a un vent tellement fort qui vient. Il fallait se tenir par terre tellement le vent était fort. Ça a duré à peu près une minute. Et ça a envoyé le sable. Et ça a exposé toutes les mines que les Arabes avaient mises. Et les Israéliens ont pu passer entre les mines sans les toucher. Des quantités de choses comme ça sont arrivées, pas à cause de la justice des Israéliens, mais parce que Dieu a fait une promesse et il a dit, « Vous êtes mes témoins au monde entier que je suis Dieu. » Toujours au chapitre 30 et au verset 7. « Malheur car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. » Le pire jour pour Israël n'est pas encore venu, et nous dirons peut-être quelques mots là-dessus. Au verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je brise un joug de dessus ton cou. Allez en Israël aujourd'hui. Alors que l'Union soviétique ne voulait pas les laisser sortir, aujourd'hui, ils partent de là par des grands jumbo jets. Des avions à réaction énormes. Et le Seigneur a dit, je dirai au nord, renvoie-les, je les ramènerai de tous les coins de la terre. Cela m'excite beaucoup. Vous ne pouvez pas expliquer ce livre autrement. Vous ne pouvez pas. Verset 10, Dieu dit, nation, écoutez-moi. J'ai éparpillé Israël et je les rassemblerai. comme le berger garde son troupeau. Alors faites attention à ce que vous faites à mon peuple. Est-ce qu'il les a ramenés? 1948, il les a ramenés. Vous savez quel miracle c'est ça? Pendant 2500 ans, ils ont été éparpillés partout sur la terre depuis la captivité en Babylonie. Moi, je suis un mélangé. Vous êtes peut-être des purs Québécois, mais moi, mon père venait d'Angleterre. Ma mère était de London, en Ontario. Ses ancêtres venaient d'Écosse et d'Irlande. On a du sang allemand. Ma grand-mère était norvégienne. Je suis un vrai mélange. Et cela s'est produit en juste quelques générations. Comment est-ce que ces Juifs peuvent être dispersés dans le monde entier, haïs, persécutés, chassés, mis à mort? Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient même pas aux prophéties de la Bible, et ils restent un peuple identifiable, reconnaissable, et ils sont ramenés dans leur pays. Vous ne pouvez pas expliquer ça autrement. Personne ne peut être athée. Personne ne peut être agnostique. Allons maintenant dans Zacharie au chapitre 12. Zacharie, chapitre 12. C'est le titre d'un livre que je viens de publier, qui s'appelle La coupe de tremble, une coupe d'étourdissement. Où il dit, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Verset 3, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Incroyable. Est-ce qu'on est en train de changer la cassette? Non? Ah, OK. On y va. Il y a des problèmes dans le monde entier. Il y a des problèmes en Bosnie, en Afrique du Sud, en Ouganda. Il y a des problèmes partout. Mais je peux vous dire que le problème numéro un des Nations Unies, c'est Jérusalem. Son nom, c'est « Ville de la paix ». C'est la clé de la paix dans le monde. C'est incroyable. Il y a 5,6 milliards de personnes dans le monde et ils regardent Jérusalem avec crainte et tremblement, sachant que la prochaine guerre mondiale débutera à cause de Jérusalem. C'est incroyable. Pourquoi? Jérusalem est une petite ville de rien du tout. Elle n'est pas dans une position stratégique. Pourquoi doit-elle être si importante? Vous rendez-vous compte que tout Israël est à peu près un sixième de 1% de ce que les Arabes ont. Les Arabes ont l'huile, ils ont la richesse, ils ont tout, les Juifs n'ont rien. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce petit morceau? Jérusalem. Ça n'a aucun sens. Mais Dieu a dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, ce sera une pierre pesante pour toutes les nations de la terre. Vous ne pouvez pas expliquer cela. Ce ne sont pas des prédictions faites par un médium, ta grand-mère va revenir, ou des séances de ci ou de ça. Ce sont des prédictions d'événements d'importance mondiale qui ont été faites des siècles et certaines, des milliers d'années avant que cela arrive, et nous les voyons se produire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ésaïe 46, « Je suis le Dieu de la prophétie. Je vous dirai ce qui va arriver avant que cela arrive, de telle façon que lorsque cela arrive, vous saurez que je suis Dieu. À Israël, vous êtes mes témoins, envers vous-même et envers le monde, que je suis Dieu. » Mais là, ça devient encore un peu plus remarquable. Allez, le verset 6 de Zacharie 12. « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. » Vous vous rendez compte de ce que c'est pour une prophétie? Il y a 2500 ans que ça a été écrit. Jérusalem était en ruine. Tout était vide autour. Et il dit, le jour viendra où Jérusalem sera une coupe d'étourdissement, et je ferai de Juda un feu qui dévorera les peuples tout autour. Est-ce que ça s'est produit? Vous avez un tout petit pays de rien du tout. Je ne crois pas que même les États-Unis voudraient les attaquer. Je sais que l'URSS ne les attaquait pas. Et les Arabes tremblent, et chaque fois qu'ils les ont attaqués, ils ont perdu. Les forces israéliennes auraient pu prendre le Caire, ils auraient pu prendre Damas, ils auraient pu prendre Beyrouth. Le plus grand combat d'avion de l'histoire. 200 MiG soviétiques pilotés par des Syriens et certains pilotes soviétiques qui ont été abattus en flammes. Les Israéliens en ont perdu 2 ou 3. Vous vous souvenez quand l'Irak développait des bombes atomiques et les Israéliens ont envoyé un avion avec une bombe pénétrante qui a fait tout exploser l'usine. Nous pouvons remercier Israël pour ça. L'Iran a pris des otages à Téhéran et les États-Unis ont pitoyablement échoué dans leur effort pour les faire sortir. On a laissé un avion brisé dans le désert, on n'a même pas réussi à les sortir de là. Ils ont pris des Israéliens en otage au cœur de l'Afrique, à Entebbe. Les Israéliens sont allés, ils les ont ramenés. Ils en ont perdu seulement une personne qui était à l'hôpital. On n'attaque pas Israël. Dieu dit, ils seront comme un feu qui dévorera les nations tout autour. Nous avons vu bien des prophéties spécifiques, là. On ne peut pas être athée. Est-ce que j'essaye de dire? Lorsque vous en venez à prêcher l'Évangile, mais comment est-ce que Paul prêchait l'Évangile? Romains chapitre 1er, il dit, il est un apôtre, séparé pour annoncer l'Évangile, mis à part pour annoncer l'Évangile, que Jésus a inventé, puis j'ai pensé que ça avait l'air d'une bonne idée, comme ça j'ai suivi cette race. Non, c'est pas ça qu'il dit. Jésus n'a pas inventé le christianisme. Le christianisme, c'est pas le nouveau gamin du coin. Ce qu'il dit, j'ai été mis à part pour l'Évangile qu'il a promis avant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Le christianisme est l'accomplissement de la promesse des prophètes. Et si ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'ont dit les prophètes, alors ce n'est rien du tout et je n'y crois plus. Mais je ne crois pas que nous prêchons l'Évangile comme ça encore aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, c'est merveilleux d'avoir un témoignage, de parler de notre expérience, de dire comment nous avons rencontré Christ, mais pouvez-vous donner une raison, et la Bible nous donne des raisons et nous en parlerons demain. Mais pour conclure avec les Juifs, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Il y a des versets de la Bible qui sont peut-être difficiles à comprendre. Daniel 8, je pense, c'est le verset 25, on n'y tournera pas, il parle de l'Antéchrist et il dit, par la paix, il en détruira beaucoup. Vous avez 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Lorsqu'ils diront « paix, paix », une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Vous vous rendez compte de ce qui se passe en Israël aujourd'hui? C'est incroyable. Il n'y a pas d'explication pour ça. Ils sont en train de s'entendre avec le PLO, avec Arafat. Il était le grand terroriste. Il a massacré des Juifs. C'est écrit dans la charte des PLO que leur but, c'est la destruction d'Israël. Vous savez ce qui est arrivé en 1947 lorsqu'ils ont séparé Israël, divisé le pays. Ils ont donné 18%, ils ont plutôt divisé la Palestine, ils ont donné 18% aux Juifs et 82% aux Arabes. On ne les appelait pas les Palestiniens de ce temps-là, c'est venu plus tard. Et lorsqu'on a déclaré l'indépendance de Jérusalem, le commandant arabe a annoncé, « Arabes, sortez de là. Sortez de là, nous allons rejeter les Juifs dans la Méditerranée, nous allons les anéantir. » Notre famille était au Caire. Arabes ont annoncé, « Arabes, sortez de là.
Sortez de là, nous allons rejeter les Juifs dans la Méditerranée, nous allons les anéantir. Notre famille était au Caire en 67 lorsque Nasser est revenu de Moscou après avoir reçu le prix de la paix des Soviétiques et les journalistes sont allés à lui, ils ont dit « Alors comment ça va être maintenant, la paix ou la guerre ?» Nasser a dit « Nous allons les jeter à la mer, nous allons détruire Israël. » Israël a là un ennemi qui a juré de les exterminer. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un miracle. Les armées de 5 pays arabes ont attaqué ces Israéliens qui ne pouvaient même pas obtenir des armes. Le monde entier était contre eux et pourtant ils ont gagné. On leur avait donné un petit terrain qui n'était pas défensable, alors ils ont pris des terres hautes, les hauteurs du Golan, un petit peu plus par là, un petit peu plus là. Parce qu'ils disent qu'ils vont revenir encore. Lorsque nous étions en Égypte en 67, tout le monde à qui nous parlions, les Égyptiens, parlaient de la guerre de 19 ans. On se demandait, mais quelle guerre de 19 ans? J'ai pourtant un diplôme de mathématicien et j'ai appris la comptabilité, j'aurais dû pouvoir calculer ça, mais 48, 67, ça fait 19 ans. En ce qui les concerne, la guerre n'avait jamais fini. Ils sont encore en guerre, ils se préparent encore. Et je me souviens que j'étais sur ce bateau avec notre famille et notre petit autobus Volkswagen. Nous allions vers Beyrouth. C'était le joyau de la Méditerranée. Ça, c'est avant que certains d'entre vous sont nés, en 67. C'était une ville merveilleuse. Et tous les jours, j'étais là et je regardais la télévision avec certains de ces Arabes qui étaient bien excités. Et Nasser revient, il passe ses troupes en revue, nous allons anéantir Israël. C'est écrit dans la charte du PLO, l'anéantissement des Juifs. Plutôt en français, c'est l'OLP. Il vient de faire un discours il y a quelques mois à Johannesburg, et il a demandé la jihad, que la jihad prenne Jérusalem. Il ne savait pas qu'il y avait un Israélien qui était là puis qui enregistrait ce qu'il disait et qui a fait sortir le message. Alors là, il a essayé de s'expliquer bien, djihad, ça peut aussi être une lutte pour la paix, la djihad. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans cela? Il a dit, je ne considère pas que les accords que nous avons signés avec Israël sont plus que l'arrangement qu'avait fait Mohammed avec les Quraysh. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Mohammed a fait un traité de paix avec les Quraysh, sa propre tribu, pour qu'il puisse garder la Mecque. 2 ans après, lorsqu'il était assez fort, il a brisé le traité et il a anéanti sa tribu et il a pris la Mecque. Et Arafat a dit, ça c'est ce que nous avons l'intention de faire. Les Israéliens donnent du terrain qui sera le point de départ de leur destruction pour ceux qui ont juré de les détruire. J'ai tant de documents que je voulais vous montrer, mais nous n'avons pas le temps. Mais qu'est-ce qui se produit à Gaza, sur la côte ouest du Jourdain? Vous devez prier pour vos frères et sœurs chrétiens arabes. Vous savez ce qui se produit? Arafat a amené 20 000 de ce qu'il appelle combattants de la liberté, de la Syrie et du Liban, ce sont des terroristes. Ils font maintenant la police. Et je peux vous dire qu'ils frappent les portes des chrétiens le soir et ils les amènent dans les prisons et ils les battent, ils les tuent. Il y a un règne de terreur que vous ne pouvez pas imaginer qui tombe maintenant sur les chrétiens arabes. Qu'est-ce que cela donne de donner ces parties du territoire à Arafat? Cela a donné à 2 millions d'Arabes, et beaucoup d'entre eux sont des musulmans. Mais savez-vous qu'il y a 42 nations arabes dans le monde aujourd'hui? Je ne suis pas anti-arabe, je ne suis pas anti-musulman, mais vous devez comprendre que pas un seul de ces pays n'est une démocratie. Dans pas un seul, on a la liberté de religion ou de conscience. L'Arabie saoudite était notre allié. Durant la guerre, nous avons versé le sang de nos soldats américains pour sauver l'Arabie saoudite de Saddam Hussein. Et encore dans ce pays-là, c'est la peine de mort si un musulman devient chrétien. C'est ce que le Coran exige. Le Coran dit, trouvez-les. Peut-être que je peux vous donner des références en terminant. Quelques références. Dans la sourate 9.5, tuez les idolâtres, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas musulmans, où que vous les trouviez. Sourate 9.29, combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Mohammed a dit, le dernier jour ne viendra pas avant que les musulmans n'aient combattu les juifs et les aient tués. Ils mettent des graffitis à Jérusalem en ce moment et vous savez ce qui est marqué dessus. D'abord, ceux qui gardent le sabbat, ensuite ceux qui gardent le dimanche. Autrement dit, on tue d'abord les juifs et ensuite les chrétiens. Les médias mentent. Ils nous disent, oh, ça c'est juste des fanatiques, des extrémistes. Non, ils font exactement ce que le Coran leur dit de faire. Quelques autres versets dans la sourate 5, verset 33. Tous ceux qui s'opposent à Allah, c'est-à-dire tous les non-musulmans, doivent être mis à mort ou crucifiés ou se faire couper les pieds et les mains. Et ça, c'est la Bible de l'islam, ça, c'est le Coran. Et au Soudan, aujourd'hui, c'est exactement ça qu'ils font. Ils crucifient littéralement des chrétiens. Nous devons prier pour nos frères et sœurs chrétiens, là. C'est la peine de mort de devenir chrétien. Ils viennent aux États-Unis, ils viennent au Canada. Et nous leur donnons la liberté, ils exigent la liberté. Il y a plus de 1000 mosquées aux États-Unis aujourd'hui. Essayez d'avoir une église chrétienne en Arabie Saoudite ou en Afghanistan ou dans un autre pays musulman, vous ne pouvez pas. Il y avait 5 chrétiens qui étaient là, travailleurs des Philippines, et ils ont été emprisonnés en Arabie Saoudite parce qu'ils étaient en train d'étudier la Bible chez eux. On nous a parlé beaucoup du rideau de fer. J'ai fait passer des Bibles derrière le rideau de fer. Il y a des gens qui avaient un ministère envers le communisme pour essayer d'amener l'Évangile dans les pays communistes. Mais on peut avoir une église en Chine communiste aujourd'hui. C'est vrai, ils persécutent, mais on peut quand même avoir une église. Il y a un certain degré quand même de liberté, même en Chine. En Union soviétique, il y avait aussi un certain degré. C'est vrai qu'il a fermé des églises, mais il en a laissé fonctionner d'autres. On peut aller à l'église baptiste de Moscou, dans tous ces pays, pendant tout le temps des communistes, mais vous ne pouvez pas faire ça dans un pays arabe. Le rideau islamique, c'est pour cela qu'il faut prier. Nous devons prier pour que l'Évangile soit porté là. Et ce qui se produit dans certaines des anciennes républiques de l'Union soviétique, il y a des musulmans qui viennent à Christ. Nous avons des amis. Il y a des missionnaires, des assemblées peut-être. Vous connaissez certains d'entre eux, George Stern, Philip Dinding et leur famille qui sont là-bas en Albanie. Et ils voient des musulmans venir à Christ et ils les baptisent. Nous devons prier pour ces chers frères qui souffrent. Nous devons prier que Dieu brise cette barrière islamique et ouvre la porte à l'Évangile, comme il l'a fait avec le rideau de fer. Dieu en dit aux Juifs, vous êtes mes témoins envers vous-même et envers le monde. Je vais vous dire ce qui va arriver, afin que lorsque cela arrive, on saura que je suis Dieu. Et ça, c'est un bon endroit pour commencer. Soyez prêts en toute occasion à rendre compte à qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous avec crainte et douceur. Dieu est le Dieu de la prophétie. La prophétie est unique à ce livre et on ne peut pas détruire cela par des explications. Israël est son témoin envers le monde. Peut-être que ce que nous avons dit aideront certains d'entre vous, les plus jeunes, je me souviens d'un jeune homme, un étudiant qui est allé travailler dans un camp de bûcherons. Il était chrétien. Ses amis priaient pour lui. Il savait qu'il serait le seul chrétien parmi ces hommes sans Dieu. Comment est-ce qu'il pourrait s'entendre avec eux? Et lorsqu'il est revenu à la fin de l'été, ils ont dit, alors comment ça a marché que tu étais le seul chrétien avec tous ces gars-là? Il a dit, oh, ils n'ont jamais deviné. Dieu ne veut pas des chrétiens dans le service secret. Il y a bien des jeunes qui ont peur à l'université de parler pour le Seigneur, parce qu'ils ont peur que quelqu'un leur pose une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Comment c'est là? Vous pouvez les confondre. Ce livre est véridique et Dieu nous l'a prouvé. J'arrête et demain nous partirons de là. Merci.